Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une de cette édition, le groupe des contacts international pour la région des Grands Lacs vient de s'exprimer au sujet de l'accord signé entre la RDC et une branche des FDLR sur leur situation. Loin de se limiter à un simple satisfait-ci, il place la RDC devant ses responsabilités. La lutte contre la malnutrition chronique infantile est une urgence absolue dans la province du Kasaï oriental. En Mbujimayi, les acteurs de la société civile ainsi que ceux des services publics sont appelés en renfort. Goma, les dessins et la peinture deviennent des thérapies pour aider les enfants à guérir. Dans une zone en proie au conflit, cette expérience se révèle salvatrice. Mais comment y parviennent-ils? Destin Materanya, notre invité, répondra à la question. Ronéline Thibonet-Raïdiamine, je vous présente cette session informationnelle. Ouvrons ce journal en parlant de ces protocoles d'accord signés le 27 juillet dernier entre la RDC et une faction des FDLR. Le groupe de contact international pour la région des Grands Lacs salue la signature de ces protocoles censés conduire au désarmement, à la démobilisation et au cantonnement de ces combattants rwandais. Loin de se laisser emporter par l'enthousiasme, ces partenaires internationaux du gouvernement congolais appellent toutefois Kinshasa à prendre rapidement des mesures concrètes afin que cette disposition ne reste pas lettre morte. Sephora Mpaka.
Le groupe de contact international pour la région de Grand Lac a pris acte ce jeudi de la signature d'un protocole de désarmement, de démobilisation et de cantonnement par une faction de force démocratique pour la libération du Rwanda, le FDLR. Cette annonce avait été faite le 28 juillet par le gouvernement congolais. Dans une déclaration publique, les groupes qui réunissent notamment les États-Unis, l'Union européenne, la France, le Royaume-Uni, le Canada et la Belgique exhortent les autorités congolaises à élaborer rapidement un plan d'action assorti d'un calendrier réaliste afin de garantir une neutralisation effective de FDLR, conformément aux engagements pris dans les accords de paix régionaux. Le GCI souligne également l'importance d'une mise en œuvre rigoureuse du protocole. Il appelle les gouvernements congolais à clarifier les mécanismes de lutte contre l'impunité prévus dans l'accord et la collaboration avec la MONUSCO, considérée comme un partenaire clé du processus. Par ailleurs, les groupes saluent l'accord d'échange des prisonniers entre la RDC et l'AFC M23, qu'ils considèrent comme une mesure de confiance susceptible de favoriser l'apaisement de tensions. Il appelle enfin toutes les parties à protéger le civil, à respecter le droit international humanitaire et à poursuivre les efforts en faveur de paix dans la région.
Intéressons-nous à cette autre convention entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les deux pays conviennent de faire avancer deux initiatives destinées à renforcer le suivi et la vérification de la mise en œuvre des accords de Washington. C'est Washington qui l'a annoncé jeudi. Cette convention fait suite aux conclusions de la 6e réunion du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité tenue à Genève en Suisse du 12 au 13 août. Les participants, parmi lesquels figurait la médiation de l'Union africaine, ont chargé les États-Unis d'examiner ces propositions et de présenter leurs observations lors de la prochaine réunion conjointe du comité. Des détails avec Bernadette Nyangui.
Les deux protocoles proposés par la RDC et le Rwanda portent notamment sur le mécanisme conjoint de coordination sécuritaire et le comité chargé de suivi du cessez-le-feu et du contrôle des mouvements des troupes le long de la ligne de contact. Il découle des conclusions de cette 6e réunion du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité tenue le 12 et 13 août 2026 à Genève. Les deux États partis aux accords de Washington, ainsi que les États-Unis, le Qatar, le Togo et l'Union africaine, ont demandé l'examen par Washington de ces deux initiatives et de faire part des observations lors de la prochaine réunion du mécanisme conjoint annoncé pour les 16 et 17 septembre prochains. La RDC y a également présenté son plan de désarmement, démobilisation et réintégration DDR des combattants FDLR, complété sur demande du mécanisme par un exposé de la MONUSCO sur son expérience opérationnelle dans ce domaine.
Comme annoncé au sommaire, 37,6% des enfants de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition chronique au Kasaï oriental. D'autres présentent une malnutrition aiguë évaluée à partir de l'indice Taipua. Ces statistiques inquiétantes proviennent des enquêtes publiées en 2024 par le PRONANUT. Pour relever ces défis, les programmes d'appui au développement rural PADRIR, en partenariat avec le PRONANUT, a réuni cette semaine les acteurs venus, notamment du Kasaï oriental, du Kasaï central, du Kasaï et de la cité civile pour une formation sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant ainsi que sur la nutrition communautaire. Les personnels de plusieurs services publics, notamment ceux de l'agriculture, des affaires sociales, de l'environnement et du genre, a également été associé à cette initiative. Vanessa Chimpaka, chargée du programme Nutrition au PRONANUT à Kinshasa, explique les enjeux de cette initiative au micro d'Esther Ndalafina.
Si nous organisons cette formation en Bujimaï, c'est parce que il y a eu des enquêtes qui ont été menées et les résultats ont révélé des taux alarmants de la malnutrition, qu'elle soit chronique ou aiguë. Par exemple, pour la province du Kasaï oriental, la malnutrition chronique est à 37,6%. Donc 37,6% de la malnutrition chronique ou du retard de croissance, et la malnutrition aiguë, celle qui tue rapidement même les enfants de moins de 5 ans, on est à 8,3%. Donc ces seuils-là sont au-delà des seuils d'urgence. Ce qui est à la base de cette malnutrition, c'est pour la plupart des cas, ce sont les mauvaises pratiques alimentaires. Nous le savons tous, les enfants de 0 à 6 mois, déjà à la naissance, on doit l'initier à l'allaitement maternel, donc on doit déjà mettre l'enfant au sein dans l'heure qui suit l'accouchement. Et de 0 à 6 mois, l'enfant ne doit prendre que le lait maternel. Mais quand on regarde l'enquête, elle avait aussi pris en compte ces volets-là. Les taux de l'allaitement maternel restent encore très faibles. En dehors de cela, à partir de 6 mois, le lait maternel ne couvre plus les besoins nutritionnels de l'enfant. Et donc, il faut une alimentation diversifiée.
De Mbujimaï à Kananga, une semaine après les naufrages survenus sur la rivière Lulua, au Kasaï central, les familles des victimes ne sont toujours pas assistées. Cette indifférence des autorités irrite les députés provinciaux Papi Noël Kankou. À travers une question écrite adressée au ministre provincial des Transports, il demande des explications sur l'absence des prises en charge des familles, les bilans officiels du naufrage et l'état d'avancement des recherches. André Katende a consulté cette correspondance pour nous.
Dans sa question orale adressée au ministre provincial des Transports, le député provincial Papi Noël Kankou déplore l'absence d'une délégation officielle sur les sites du drame à Tchibouté afin de constater les dégâts, d'organiser les secours et d'apporter un soutien aux familles des victimes. Il réclame également une assistance matérielle et financière en faveur des familles endeuillées. L'élu provincial demande au ministre de rendre public les bilans officiels de cet accident, notamment les nombres des morts, le nombre de personnes dont les corps n'ont pas encore été retrouvés, ainsi que le nombre des survivants. Autre préoccupation soulevée, les causes du naufrage. Les députés demandent enfin la mise en place des mesures immédiates pour renforcer les contrôles de la navigation sur la rivière Lulua. Pour rappel, le 5 août dernier, une pirogue s'est renversée sur la rivière Lulua dans les territoires de Demba au niveau du village Bakwamulambankanga. Une trentaine de personnes, majoritairement des enfants, s'est trouvée à bord. Plusieurs passagers avaient alors été portés disparus. À l'issue des recherches, les corps sans vie des 6 enfants ont été retrouvés. Kananga, André Katende Ngalamulume, Radio Okapi.
Vous êtes nombreux à nous écouter à Beni où il est 19h passé de 8 minutes. Dans cette ville du Nord Kivu, plusieurs familles déplacées issues de la communauté autochtone pygmée vivent sans insistance. Ces ménages ont fui leur site de Ngadi, un quartier périphérique, après une attaque des ZADF survenue fin mai 2020. Installé provisoirement par les autorités provinciales à Boïkéné, un autre quartier de Beni, ces déplacés sont privés de tout. Ils vivent dans des conditions difficiles. Chantal Kahashi s'est rendu sur les lieux où ils sont installés et nous propose ses reportages.
Ces familles pygmées peinent à s'adapter à leur nouveau site d'accueil. Beaucoup manquent de nourriture et d'abri. Elles racontent leur quotidien.
Nous dormons très mal, pas de lit ni couverture.
Nous n'avons pas de nourriture, les affaires d'hommes dehors, exposés aux intempéries.
Avant, on chassait dans la forêt pour manger, mais plus maintenant, nous souffrons beaucoup.
L'accès aux soins et à l'éducation pose aussi problème. Les familles demandent une solution avant la rentrée scolaire.
On s'est traité avec des médicaments traditionnels. Aujourd'hui, avec des médicaments modernes, ça ne va plus. Nous étions dans la forêt, nous ne tombions pas malades. Qu'ils construisent aussi des classes pour que nos enfants ne traversent pas les routes et étudient dans de bonnes conditions.
Jackson Kisenga, défenseur des droits des personnes pygmées, appelle à leur assistance.
C'est une communauté qui a le droit aussi de vivre comme tout autre peuple, aux autorités, aux organisations humanitaires, aussi à la communauté. Que cette mobilisation, on l'accorde à ceux qui sont encore en vie.
Le site accueille 67 ménages, dont on a 2 femmes et 112 enfants. Beni, Chantal Kahashi, Radio Okapi.
Nous restons dans l'est de la RDC où les combats se sont poursuivis ce vendredi matin à Kusisa, dans le groupement des Iralo en territoire des Kalehe au site Kivu. Le FRDC, appuyé par le Wazalendo, affronte les rebelles de l'AFC M23. Selon des sources locales, ces affrontements qui durent depuis 3 jours aggravent la crise sécuritaire et humanitaire dans la région. En termes de bilan, l'armée affirme avoir repris les contrôles de plusieurs localités stratégiques. Jean Gandou pour les détails.
Des violents échanges de tirs étaient encore signalés ce vendredi matin sur l'axe Igali dans le village de Kusisa à environ 5 km de Changé, non loin du village Numbi. Après plusieurs semaines d'accalmie, les combats ont repris dans la région il y a plus d'une semaine avant de s'intensifier depuis le mercredi dernier. Jeudi, le porte-parole de la 34e région militaire a annoncé la reconquête par l'armée congolaise et les Wazalendo des villages de Chambombo, Changé, Lumbishi, Kavumu, Luzirantaka et Numbi. Un calme précaire y est observé selon des sources indépendantes. Plusieurs personnes avancent un bilan provisoire d'au moins 5 civils tués, dont une femme et ses 2 enfants, ainsi que de 4 militaires FRDC blessés. Les affrontements ont également provoqué de nouveaux déplacements de la population vers le territoire voisin de Masisi, au nord Kivu. La situation reste tendue et volatile dans la zone, indiquent les acteurs de la société civile locale.
En Ituri, on parle de la présence renforcée des forces armées de la RDC, visible vendredi matin dans les villages situés autour des Mambasa Centre. Cette présence fait suite aux mesures dissuasives mises en place depuis jeudi soir, après une tentative d'incursion attribuée aux rebelles ougandais des ADF. L'incident, marqué par des échanges de tirs, a suscité une vive inquiétude au sein de la population et poussé certains habitants à quitter leur domicile. Jean-Claude Lokidile revient sur cet incident.
Il était environ 20h, heure locale, lorsque des tirs ont retenti dans le quartier Arua 2, situé à environ 4 km de Mambasa Centre, selon plusieurs sources locales. Des combattants présumés ADF auraient tenté de faire incursion dans cette partie de la cité. Alertés, les FRDC ont rapidement dépêché des renforts sur place. Un activiste des droits de l'homme affirme avoir vu plusieurs véhicules militaires se diriger vers la zone. Selon lui, des engins de la brigade d'intervention de la MONUSCO ont également transporté des militaires vers la ligne de front. Des échanges des tirs à l'armée lourde et légère ont alors été entendus. Pris de panique, plusieurs habitants des quartiers Dar es Salaam, Afrique du Sud, Ewabora et Zunguluka ont quitté leur domicile pour se mettre à l'abri. Certains se sont dirigés vers les centres de Mambasa, notamment autour du rond-point. Quelques minutes plus tard, le calme était revenu dans la cité après le repli des assaillants. Ce vendredi matin, plusieurs véhicules des forces de sécurité étaient toujours visibles dans les principales artères de Mambasa Centre. Pour l'heure, le bilan officiel de cette attaque n'a pas encore été communiqué. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Posons nos valises dans la partie occidentale du pays où les préparations de la rentrée scolaire demeurent timides dans la province du Congo central. À 3 semaines de la rentrée des classes, les clients à la recherche des fournitures telles que les uniformes, sacs et autres articles pour élèves se font rares. Plusieurs commerçants expliquent cette faible affluence par les difficultés financières rencontrées par de nombreux ménages. Une situation préoccupante pour les vendeurs qui ont investi leurs capitaux dans cette marchandise à la veille de la rentrée. C'est un reportage signé Elise Kavira.
Derrière leurs étalages couverts d'uniformes et des fournitures scolaires, les commerçants attendent, le regard tourné vers les potentiels clients. Certains passants n'y s'y intéressent même pas. Une situation qui décourage de nombreux vendeurs. Malgré tout, ces jeunes vendeurs de cartables ne perdent pas espoir. Optimiste, il espère qu'après le paiement des salaires, les parents viendront se procurer des cartables ainsi que d'autres fournitures nécessaires pour la rentrée scolaire.
Les parents passent devant les étalages sans s'arrêter. Beaucoup attendent encore leur paye pour faire la rentrée scolaire.
Mais derrière cet optimisme affiché par certains commerçants, beaucoup voient s'amenuiser leurs chances de réaliser des bonnes ventes, notamment parce que les fournitures scolaires sont désormais vendues un peu partout, y compris dans certaines écoles.
Il n'y a plus de ventes. Les uniformes et les chaussures des élèves sont vendus à l'école et les parents achètent là-bas. Que les autorités se penchent sur cette situation pour nous aider, nous aussi, à survivre.
Entre la baisse des ventes, les difficultés économiques des ménages et la concurrence exercée par certaines écoles, plusieurs commerçants de Matadi espèrent encore un regain d'intérêt de la part des parents, particulièrement après le paiement des salaires, période traditionnellement favorable aux achats liés à la rentrée scolaire. Depuis Matadi, Elis Kavira, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Parlons de la Chine qui annonce un nouvel exercice aérien conjoint avec l'Égypte de la mi-août. À début septembre, les deux armées participeront en Égypte à l'exercice conjoint Eagles of Civilization 2026, a annoncé vendredi Chen Xi, porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale, lors d'une conférence de presse.
L'invité.
Notre invité ce soir nous vient de Goma, au Nord Kivu. Il s'agit de Destin Materanya, responsable de la fondation Afoge Jama, une organisation qui accompagne les enfants affectés par les conflits armés et communautaires à travers l'art-thérapie. Samedi 8 août, la fondation a clôturé un atelier artistique réunissant 30 enfants âgés de 5 à 14 ans autour du dessin et de la peinture. L'objectif était de leur permettre d'exprimer leurs émotions et les ressentis à travers l'art. Destin Materanya revient sur l'importance de cette initiative dans cet entretien réalisé par Bernadine Diambou.
Destin Materanya, bonjour.
Bonjour madame.
Vous avez supervisé l'activité qui consistait à l'art artistique qui a réuni durant 3 jours des enfants de 5 à 15 ans. Alors dites-nous, quel est l'objectif principal de cet atelier de peinture à Goma?
Notre objectif principal pour cette activité était de contribuer à la restauration du bien-être psychosocial et au renforcement de la résilience des enfants traumatisés dans notre région de l'Est. Mais aussi nous sommes orientés plus dans la ville de Goma à travers l'art-thérapie par la peinture.
Pourquoi avoir choisi l'art-thérapie pour ces publics spécifiques, notamment les enfants?
Bon, madame, vous savez, il y a plusieurs choses qui se sont passées dans la ville de Goma auxquelles les enfants n'étaient pas vraiment habitués à voir. Par exemple, les coups de feu, des cadavres visibles partout dans la ville, la mort qui était vraiment chantée par-ci, par-là. Et même si la ville essaie de prendre un peu certain calme, l'air de conscience aurait enregistré ces choses. Maintenant, nous, en tant qu'Afoge, on s'est dit on ne peut pas rester calme. On doit essayer de participer à la guérison des enfants. Raison pour laquelle nous avons trouvé la peinture et comme une expression artistique qui consisterait au moins à cette guérison qui prendra un peu de processus petit à petit. Ils permettent aussi aux enfants de verbaliser graphiquement leurs émotions sans obstacle des mots parce qu'on se disait que libérer les tensions internes et d'amorcer un processus de guérison et des reconstructions psychologiques. C'est la raison pour laquelle Afoge a organisé cet atelier en faveur de ces enfants que nous venions de parler.
Oui, en faveur de ces enfants, concrètement, qu'est-ce qu'ils ont appris?
Les premiers jours ont été consacrés sur l'initiation à l'art, les différentes couleurs qui décrivent l'émotion des enfants. Le deuxième jour, les enfants ont eu le temps de peindre et à travers ce qu'ils ont appris au premier jour. Les enfants étaient libres de s'exprimer, de dessiner ce qui se cache au fond d'eux sous différentes émotions. Et le troisième jour, nous avons clôturé notre atelier par la remise des dessins que les enfants ont fait. Mais aussi, ils ont fait un travail en groupe qui les a permis quand même de communiquer, de mettre un peu ensemble ce qu'ils ont appris durant cet atelier.
Avez-vous vu des changements notables chez les enfants qui ont participé à cet atelier?
Oui, je dirais que nous avons eu vraiment à remarquer certains changements parce que durant le premier jour, il y a les enfants qui étaient frustrés, ils ne participaient pas vraiment à fond à cet atelier. Ils étaient calmes, mais à la fin, nous avons trouvé quand même heureux. Ils commençaient à s'exprimer et surtout, cette expérience s'est manifestée dans le travail en groupe où chaque enfant a eu le temps de s'exprimer. Les autres essayaient quand même de les compléter dans leurs idées qu'ils se sont décidés à faire ensemble. Pour nous, c'est un changement parce qu'au début, on a reçu une catégorie des enfants un peu stressés, calmes, qui ne savaient pas comment s'exprimer. Mais à la fin, nous avons trouvé quand même les enfants qui étaient en mesure de faire quelque chose. Et pour nous, c'est vraiment un changement positif.
Comment financez-vous ces activités artistiques pendant cette période de vacances scolaires?
Vous savez, madame, nous sommes une association sans but lucratif. Nos contributions principales viennent par les membres d'Afoge, mais aussi d'autres personnes de bonne volonté. Mais pour cet atelier aussi, surtout les parents qui nous ont envoyé leurs enfants et ils se sont dit, quand même vous êtes donné la peine d'encadrer nos enfants, de les aider à se développer, à s'exprimer. Ces parents aussi nous ont aidés à contribuer pour que cette activité se passe dans de bonnes conditions.
Enfin, on dit qu'on va encore se voir l'année prochaine. Selon vous, prévoyez-vous encore de prolonger ou d'élargir ces projets?
Oui. Tenant compte de ce que nous avons vécu, nous trouvons que c'est très important que nous puissions planifier d'élargir les projets aux enfants à besoin, dont les parents n'ont pas les moyens de financer cette activité. Nous trouvons que c'est vraiment important que cette activité puisse se repasser de nouveau.
Alors, pour terminer, un message aux parents.
Nous encourageons aux parents d'abord qui nous ont confié leurs enfants, mais aussi nous demandons aux parents d'observer dans les moindres détails ce que les enfants font à la maison. Certains enfants ne sont pas à mes yeux de s'exprimer verbalement, mais face aux différents signes, comme nous avons vécu pendant ces 3 jours, il y a de ces enfants qui nécessitent quand même une attention particulière par rapport à ce qu'ils font.
Merci.
C'est moi qui vous remercie, madame, pour ce temps.
À 19h passé de 20 minutes à Walikale au nord Kivu, c'est la fin de ce journal supervisé par Jean Gandou, coordonné par Richard Junior Kamunga. Jason Siala s'est occupé de la mise en onde. Ronelin Tibonera Idi Amin, c'est moi. À l'unisson, nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne continuité d'écoute sur Radio Kapi.
Ceci est en mise.